Non, non, ça n'était pas surprenant en soi, puisqu'il y avait quand même un certain scepticisme sur le contenu possible de ce second sommet, sachant que la dénucléarisation était un enjeu très, très complexe, très délicat à mettre en œuvre. Et on a bien compris que c'était un gage de survie pour le régime nord-coréen. Et on ne voyait pas comment il pouvait accepter de démanteler son programme. Donc nous nous attendions quand même à des négociations assez longues. Et c'est vrai que dans ce sens, le sommet de Hanoï est élu comme une étape, et compris comme une étape qui permettait d'entretenir un dialogue qui aurait pu déboucher sur des engagements à minima. Et c'est vrai que peut-être la signature d'une déclaration, sur l'établissement d'un traité de paix, donc une déclaration sur la fin de la guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis, était attendue et aurait pu au moins donner l'occasion d'une signature commune.
Mais tout espoir n'est pas perdu, parce que peut-être aussi on peut aller vers un troisième sommet, non ?
Alors, chacun a tenu à sauver la face. Donald Trump, qui ne souhaite pas donner l'impression d'être resté sur un échec, s'est efforcé de faire bon visage. Mais je pense que la partie nord-coréenne est quand même assez échaudée, parce qu'on a bien compris que si Kim Jong-un se donnait la peine de prendre un train et de voyager pendant 2 jours dans son train blindé, donc de sortir de chez lui pour venir à Hanoï, c'est qu'il pensait revenir avec au moins un allègement, une levée partielle des sanctions. Donc, quelque part, il ne ramène rien. Et c'est peut-être lui qui est le plus en difficulté par rapport à Donald Trump et aux attentes de ce sommet, parce qu'il va devoir expliquer, et je suis sûre que sa propagande s'en chargera, mais il va quand même expliquer pourquoi il n'a pas obtenu un allègement des sanctions. Or, il en a besoin, son économie est en piteux état, et finalement, il n'aura d'autre issue que de se tourner une nouvelle fois vers la Chine pour l'aider.